sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et comme à chaque lundi midi, j'ai le plaisir d'accueillir en studio son président directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors tantôt, tu vas nous présenter un invité en studio. Tout de suite, on garde le suspense.
Oui, juste entre nous deux.
Oui, c'est ça. Alors pour tout de suite, on va revenir sur l'actualité. Mais avant de revenir sur l'actualité, on va quand même inviter les gens à nous écrire, à transmettre vos questions. Alors comment on fait? On va sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Vous cliquez sur « Poser vos questions ». On peut le faire par texto aussi, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Alors, avant d'y aller avec notre invité du jour, Donald, on revient donc sur l'actualité des derniers jours. On a appris que l'usine Virencia est en mode un petit peu, sans dire liquidation des biens, mais a été placée sous séquestre. Peux-tu nous éclairer un peu ce qui se passe avec l'usine Virencia qui est dans le parc industriel de Bécancour?
Donc, l'usine Virencia est juste en face de celle de Greentone, donc un peu au cœur du parc, une usine qui a été mise en service en 2021. Et puis, eux, ce qu'ils produisaient, c'est de la protéine à partir de luzerne. Donc, comprendre que c'est comme un peu de l'agriculture, fait qu'il faut rentabiliser un projet avec 4 mois de production. Donc, il y avait des enjeux, c'était quand même assez difficile de rentabiliser tout ça. Et puis, ont dû se placer sous le rôle de protection des créanciers. Et puis, pour l'instant, le séquestre, ce qu'ils tentent de faire, c'est recouvrir le meilleur investissement possible. Et puis, évidemment, si quelqu'un est prêt à reprendre l'entreprise, à le refaire produire, ce serait probablement le meilleur scénario. Mais il va falloir suivre ça. J'ai l'impression que d'ici les 4-5 prochains mois, ça va se régler. Donc, situation pas souhaitable, mais ça arrive parfois. Et puis, assurément, je ne vois pas que c'est possible qu'il y ait de la production cet été.
Donc, à suivre dans les prochains mois. Toi, Donald, tu as participé au sommet sur les batteries. Tu étais même panéliste. Que retiens-tu de cet événement qui avait lieu à Shawinigan?
C'est la 3e édition. C'était intéressant de voir que le momentum est toujours là, même légère croissance des participants. J'ai eu la chance d'être sur un panel avec Karim Zaghib. Karim qui est venu ici à l'automne. Et puis, avec Karim et Dan Silverman. Dan Silverman, vice-président Investissement Québec, qui est beaucoup impliqué dans tout ce qui se passe à Bécancour. On parlait d'exportation, mais moi, j'étais là un peu pour, avant de penser exporter, il faut réussir à produire chez nous. Donc, on en a profité pour faire un peu une mise à jour de tout ce qui se passe à Bécancour. Les résidents de Bécancour qui passent sur l'autoroute, ils le voient quand même que ça évolue. Fait que là, c'est une occasion de le présenter à des gens intéressés vraiment dans le créneau des batteries.
Puis dans ton cas, un panel n'attend pas l'autre parce que dès demain, je crois, tu seras participant à un autre panel. En tout cas, tu vas assister aux assises québécoises du secteur maritime à Lévis, organisées par la SODES.
Oui, Société de développement économique du Saint-Laurent. Donc, je fais partie d'un autre panel avec le port de Saguenay et puis les 4 ports du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie qui sont en sorte une filiale de la SPIB. Mais c'est un peu d'échanger sur le rôle que les ports peuvent jouer dans tout le contexte économique qu'on vit. On le dit ici depuis un bon bout de temps, les fameux minéraux critiques, un avantage qu'on a. Et puis, en termes d'énergie aussi, voir comment les ports peuvent peut-être se positionner. Fait donc, il y aura un échange là-dessus demain. En tout cas, je pense que ça va être intéressant. On va tenter de rendre ça intéressant pour les gens qui vont être présents. C'est un événement annuel qui se passe toujours dans la région de Québec.
Donc, des implications plus que pertinentes, que ce soit au niveau maritime, au niveau filière batterie. En parlant de filière batterie, justement, le gouvernement vient d'annoncer, ministre Christine Fréchette vient d'évoquer peut-être de nouveaux investissements dans le domaine de la filière batterie. Peux-tu nous en parler?
Bien, c'est tout chaud. Un article du Journal de Montréal de ce matin, finalement, ce qu'elle amène, c'est qu'il y aura d'autres investissements dans le domaine de la filière batterie. Et puis pour moi, bien évidemment, c'est pas surprenant parce qu'une fois qu'on a attaché un projet, on travaille à en attacher un autre et un autre et un autre. Et puis, ce que les gens voient qui émerge à Bécancour, bien, il y a beaucoup d'opportunités en amont qu'on travaille mais qui ne s'avèrent pas. Et il y en a qui prennent forme, qui prennent racine. Fait que, tu sais, pour moi, je sais le portefeuille de projets qu'on a devant nous. Fait que ça ne me surprend pas. Et puis, clairement, Bécancour est bien positionné. Tu sais, Bécancour, ce qu'on a comme joueur, ben, au-delà de la qualité des caractéristiques du parc, on a des joueurs. On avait déjà des joueurs établis solides, mais avec les joueurs filière batterie, c'est des gens qui ont accès à des capitaux, donc qui ont de l'argent dans leur poche, comme on dit. et puis qui viennent reproduire des usines qui fonctionnent déjà ailleurs. Fait que, donc, on a une robustesse. Robustesse dans le sens que ce n'est pas un start-up qui a besoin de financement, donc ils ont déjà accès à des capitaux et puis ils ont déjà des usines à pleine production. Fait que pour ça que moi, je pense que Bécancour va être une terre d'accueil assez fertile pour le désir du gouvernement d'investir encore dans cette filière-là qui est toujours porteuse à notre point de vue. Là.
Et quand on parle de filière batterie, quand on parle de vallée de transition énergétique, bien, je pense que là, on peut faire un beau lien avec notre invité du jour, lentement mais sûrement. Peux-tu nous le présenter, s'il te plaît,
oui.
Donald?
Oui, quand je suis arrivé en poste, ça n'a pas pris de temps que j'ai reçu une lettre et une invitation de sa part, parce qu'il y a comme évidemment une complémentarité entre des usines, la production industrielle et le savoir et tout ce qui est de la recherche et développement. Donc, notre invité, Christian Blanchet, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, bonjour Christian, merci d'être là.
Bonjour Donald, bonjour Marc.
Bonjour heureux Christian. D'être là. C'est un plaisir. Puis on s'est entendu pour se tutoyer là, en toute convivialité durant l'émission.
C'est
là.
Ça, on ne fait pas semblant qu'on ne se connaît pas. Donc, merci d'être là encore, Christian.
Alors, Christian, évidemment, on a le plaisir et le privilège d'avoir le recteur de l'UQTR. Et donc, on veut parler de l'UQTR d'entrée de jeu. Bon, peut-être faire un petit peu d'histoire de l'UQTR, l'historique, les faits saillants. Bon, l'UQTR, bon, les gens savent c'est quoi en général, mais c'est quoi exactement?
En fait, c'est une université de taille moyenne qui est classée 28e en recherche au Canada, dans le premier tiers. Il y a une centaine d'universités au Canada. C'est une université qui est en pleine transformation. Là, on est notre intensité de recherche à l'UQTR a augmenté beaucoup depuis 5 ans. On a maintenant une intensité de recherche qui est équivalente à ce qu'on trouve à l'Université de Montréal, Concordia ou Laval. Et d'ailleurs, on vient cette année de nous changer de catégorie d'université. On est maintenant dans la même catégorie d'université en recherche que Concordia, wow. Entre autres, que l'UQAM. Et donc, c'est vraiment l'effort de nos profs et l'intensité de cette recherche-là qui est extrêmement importante. Mais pour la région, c'est aussi un lieu de formation. Pour la région Centre du Québec, Mauricie, La Naudière, pour ces régions-là, c'est 16 000 étudiants, un peu moins de 16 000 étudiants. Et là aussi, une croissance importante. C'est une université qui se caractérise par l'audace et l'innovation avec plusieurs programmes uniques, plusieurs niches de recherche uniques aussi. Et donc, belle université pour la région, une belle université pour le parc industriel de Bécancour, parce qu'il y a là beaucoup de partenariats avec le monde de l'entreprise. Et l'UQTR est reconnue pour être une de celles qui en fait le plus.
Puis aussi, j'étais journaliste au Nouvelliste quand il y a eu le lancement ou l'annonce de la création à venir à cette époque-là de la zone d'innovation. Et Christian Blanchette de l'UQTR est l'un des instigateurs clés de cette initiative-là gouvernementale au bout du compte. Mais quand même, le rôle de l'UQTR par rapport à la zone d'innovation, la vallée de transition énergétique, ton rôle même personnel là-dedans? Là.
Oui, bien, c'est un beau projet. Moi, je suis arrivé le 1er décembre 2020. Et on a tout de suite mis sur la table qu'il y avait 3 projets de zone d'innovation qui se travaillaient avec 3 villes différentes, Shawinigan, Trois-Rivières, Bécancour. Et on a convenu à ce moment-là de s'assurer que chacune d'entre elles travaillait sur des enjeux complémentaires. Parce que j'avais l'instinct qu'un jour, on devrait réunir tout le monde. Mm-hmm. Et justement, 2 ans après, on cognait à ma porte, un peu plus d'un an après, on cognait à ma porte en disant ben, ce ne serait pas possible de réunir tout le monde. Et ce qu'on a fait... rapidement, maire Salard, maire Angers, le maire Lamarche, dans les bureaux à l'UQTR, on a convenu qu'on créerait ce qu'on a nommé la vallée de la transition énergétique en travaillant ensemble sur un seul projet qu'on a annoncé le mois suivant.
Inévitablement, Donald, tu as été appelé à côtoyer, rencontrer Christian assez rapidement, j'imagine.
Oui, très vite. Et puis, le parc de Bécancour était impliqué dans le projet Bécancour qui avait pris forme 2018-2019. Puis en passant, moi, je m'intéressais beaucoup à ça avant d'entrer en poste. Mm-hmm. C'est un peu ça qui m'a... Quand j'ai vu, OK, oui, il y a des trucs dans le parc, mais il y a la zone qui se discute. Moi, je trouvais qu'on avait les ingrédients pour avoir du succès. Fait que c'est sûr que tout ça, moi, ça m'a comme... je lisais, il n'y avait pas beaucoup d'articles, mais il y en avait un peu, fait que je me renseignais beaucoup. Et c'est clair d'avoir l'UQTR qui joue un rôle de leadership dans tout ça à travers toutes les autres. C'est important parce que ce qu'on souhaite, c'est avancer en recherche fondamentale, mais recherche appliquée aussi. Et puis, pour moi, d'avoir des usines qui s'installent dans un parc industriel, c'est un succès. Mais c'est un succès encore plus grand quand les gens s'enracinent avec les institutions de recherche comme l'UQTR. Une usine qui vient produire, c'est une chose, mais une usine qui veut évoluer avec nous dans son savoir puis dans toute la technologie de son usine, pour moi, c'est très prometteur.
Aussi, la création de la zone d'innovation. Mais Christian, oui, tu peux ajouter quelque chose?
Oui, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'écosystème de recherche en Mauricie, au centre du Québec, est beaucoup plus large que l'UQTR. Là, il y a des gens qui vont dire, bien, voyons, on parle de l'UQTR. Bien sûr que j'ai parlé de l'UQTR. Mais pourquoi est-ce qu'on a réussi à convaincre la zone d'innovation, la vallée de la transition énergétique, devait être ici? C'est qu'on a fait l'inventaire, puis c'est 60 % de la recherche sur l'énergie au Québec qui se fait dans la région.
Wow.
Avec deux centres de recherche d'Hydro-Québec, avec le CNET, avec le Centre de recherche en métallurgie du Québec, avec le C2T3 sur le télécommunication et le génie électrique. L'UQTR qui travaille, oui, on connaît tous l'hydrogène, mais on travaille sur beaucoup plus en énergie. On travaille sur les matériaux critiques et de pointe qui sont utilisés dans les batteries. Samané Chagaldi, une de nos professeurs, travaille maintenant avec Nouveau Monde Graphique pour développer de nouveaux composites. On travaille sur l'usage de l'énergie dans le transport, dans les édifices. Et donc, c'est autant la batterie que l'hydrogène, même si l'hydrogène, pour l'hydrogène, on est reconnu mondialement pour cette recherche.
Puis, tu sais, ce que tu amènes, Christian, c'est que ça fait du sens que ça prenne racine dans la région. Puis la réalité, c'est que le commun des citoyens n'est pas nécessairement totalement au courant de tous les atouts qu'on a. On a plein d'atouts, le fameux le CNET à Shawinigan. Karim était au LTE pendant je ne sais pas combien de temps, donc l'Institut de recherche Hydro-Québec à Shawinigan encore. Donc, moindrement qu'on s'intéresse à la chose, on voit tous les atouts, les avantages qu'on a. Et puis, ce n'est pas par hasard, effectivement, que la VTE atterrit. Et clairement, je pense que la chance que la VTE a et la chance que la Société du Parc a, c'est de savoir mutuellement. Parce que sans le potentiel, parce que Alain Lemieux le dit souvent, il faut réussir à industrialiser. Karim l'amène. Mm-hmm. Faire de la recherche, c'est bien, mais après ça, il faut passer à d'autres stades. L'expérimentation aussi, mais il faut vraiment se rendre à l'industrialisation, ce que le parc de Bécancour permet de faire. T'sais, aujourd'hui, les projets qui sont ici à Bécancour n'auraient pas nécessairement pu voir le jour à beaucoup de places au Québec, là. Donc, de par tous les atouts qu'on a, puis qui rendaient ces projets-là quand même possibles d'être faits rapidement.
Mm-hmm. Donc, on a évoqué un partenariat avec Nemaska Lithium, une implication. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut énumérer avant la pause?
Oui, bien sûr. Air Liquide Canada, qui est un des plus grands centres de création d'hydrogène au monde, ben, on a des projets avec eux pour améliorer, réduire la consommation d'énergie pour produire l'hydrogène. Ça se fait là. On a aussi des chercheurs qui travaillent sur l'économie circulaire, qui travaillent au sein du parc industriel pour s'assurer que les déchets des uns sont la matière première des autres. On a aussi des gens qui travaillent sur le recyclage de la batterie. Là, je pense au professeur Jacques Huot. Jacques Huot, il est, dans son domaine, parmi les 2 % des chercheurs les plus cités au monde. Et il est à Trois-Rivières. Il travaille justement avec Laurentide, avec Nemaska Lithium pour le recyclage du lithium et d'en réduire l'impact environnemental.
Donc, un paquet de bels exemples.
Oui, oui. Puis, tu sais, des fois, les citoyens nous disent « OK, pourquoi que ça arrive ici, la batterie, on ne connaît pas ça. » C'est pas vrai qu'on ne connaît pas ça. Mm-hmm. Karim lui-même avec ses équipes ont de multiples brevets. C'est des centaines de brevets. Donc, on connaît quand même ça, mais c'est méconnu qu'on a cette expertise-là. Et ce qui est à souhaiter, c'est que les gens comprennent vraiment qu'on est solide. Tu sais, la batterie, c'est de la chimie. L'UQTR, la chimie, vous êtes là-dedans depuis longtemps. Tu sais, le CNET aussi.
C'est les matériaux.
Oui.
Et les matériaux pour réduire, augmenter l'efficacité des batteries, augmenter l'efficacité des piles à combustible qui permettent de produire l'énergie à travers l'hydrogène. Tout ça, c'est de la recherche de pointe qu'on peut penser initialement être de la recherche fondamentale, mais qui est en fait de la recherche appliquée. Et la présence des grandes entreprises dans le parc industriel, ben vous savez quoi? C'est le mariage parfait.
Bien, déjà, en ce début d'émission, on a vu à quel point il y a pas mal d'atomes crochus entre l'UQTR et la SPIB. Donc, on va poursuivre cette exploration après la pause. Et on va aller aussi voir avec l'UQTR aussi. Bon, on a parlé beaucoup de filières batterie, puis avec raison, mais aussi il y a d'autres projets qui ont un lien entre la SPIB et l'UQTR qui n'ont pas rapport à la filière batterie. Et ça, on va découvrir ça après la pause. Donc, on a bien hâte de continuer cette discussion avec Christian Blanchette, qui est le recteur de l'UQTR et Donald Olivier de la SPIB. Et écrivez-nous, posez vos questions 819-519-9050, 819-519-9050 ou sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour avec Donald Olivier de la Société du Parc et notre invité aujourd'hui, hein, quel privilège qu'on a de l'avoir en studio, le recteur de l'UQTR, Christian Blanchette, pour nous parler de toute cette symbiose, cette synergie avec la Société du Parc et l'Université. On en était rendu peut-être, Christian, à peut-être évoquer la ville de Bécancour dans tout ça, avec peut-être des projets impliquant la municipalité.
Oui, bien écoutez, l'UQTR, elle s'insère dans tout un milieu. La Mauricie, le centre du Québec, sont ces deux premières régions, la Naudière et la troisième. Et la ville de Bécancour est le lieu où le parc industriel se trouve. C'est une ville qui est promise à une croissance importante. Et justement, on a convenu d'établir un partenariat particulier avec la ville de Bécancour qui a identifié un certain nombre de projets sur lesquels travailler pour justement mieux structurer la croissance importante que la ville aura. Entre autres, tout le volet du logement, la croissance durable du logement et de la ville en zone d'innovation. Mm-hmm. C'est un élément extrêmement important. Puis on a une chercheuse, Cynthia Morinville, la chaire du Canada de recherche sur les politiques publiques et la transition énergétique. Bien, elle collabore avec la ville de Bécancour pour développer des outils qui permettront de plus efficacement réguler cette croissance du logement à Bécancour. Et ça, c'est juste un projet parmi d'autres.
Mm-hmm. Oui, parce que la réussite de tout le développement d'un parc industriel, ça passe pas juste par le parc lui-même, hein, ça passe par tout ce qui est en périphérie. On pourrait parler des PME, mais aussi tout
le milieu de vie,
notre fond. Oui, le milieu de vie, tout ce que les citoyens ont besoin. Et puis, c'est sûr que ça crée de l'inconfort, hein, parce que les projets ont démarré, puis les gens y croyaient peu à l'époque. Là, on est obligé d'y croire. Mais ça veut dire que tous, des fois, ça se développe pas totalement dans la séquence qu'on aurait souhaité. Mais c'est clair que l'apport de la ville et le soutien de l'UQTR, ça aide parce que c'est un créneau que la SPIB n'intervient pas. T'sais, nous, on s'occupe du développement industriel sur le territoire de la Société du Parc et c'est un travail d'équipe aussi avec la ville pour tout ce qui concerne les citoyens.
Il y a aussi le consortium Formation Énergie. Ça aussi, c'est un volet intéressant et important.
Ça, c'est un autre aspect du grand projet de la vallée de transition énergétique et de la filière batterie. C'est qu'une des questions a rapidement surgi, c'est-à-dire il faut former ces travailleurs-là qui viendront s'établir, qui viendront œuvrer au sein des entreprises. Donc, on a participé, la fin 2021 à réfléchir comment la formation devrait se faire. Puis on a rassemblé, en fait, au départ, les cégeps du Centre du Québec, ceux de la Mauricie, à l'UQTR, puis on a discuté comment on pouvait se structurer autour de ça. Et de là est né le consortium Formation Énergie qu'on a élargi au centre de services scolaires des deux régions. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus que ça. C'est devenu un consortium national, un consortium québécois qui intègre des cégeps, des centres de services scolaires et quelques universités de partout au Québec. L'objectif, c'est de créer des formations qui nous permettent de bien former à la fois les employés qualifiés qui seront sur le plancher des usines, à la fois les techniciens nécessaires et toute la formation continue liée à l'université, qui sont des savoirs universitaires autour de l'énergie et des enjeux liés à la filière batterie. Bien, écoutez, ça, c'est en marche, ça, c'est en place. Les gens se rencontrent régulièrement et il y a des offres de formation qui sont maintenant disponibles venant de ces partenaires-là.
Oui, donc il y avait une évidence que c'était mieux de travailler ensemble, mais ça ne se fait pas nécessairement de façon aussi
spontanée
aussi que ça. Mm-hmm. Et puis moi, ce que j'ai apprécié, c'est que centre de services scolaires, cégep, université, tout le monde a réussi à avoir la maturité pour à se convaincre que c'était gagnant pour tout le monde et puis à mettre peut-être de côté certains petits enjeux, certains petits intérêts pour l'intérêt plus collectif. Ça a été vraiment un beau gain puis un signe de maturité de tous les dirigeants des établissements d'enseignement de la région.
Marc, il dit ça avec un petit sourire. En fait, tout ce monde-là s'entend bien toujours.
Oui. Mais quand même, il y a des enjeux de compétitivité à l'occasion. Mais vraiment, c'est un bel exemple de collaboration qui était souhaitée et souhaitable. Parce que là, les besoins sont là, parce qu'on parle d'usines qui vont avoir besoin de monde, de gens pour travailler à coût de centaines de personnes.
Oui, puis ce que Christian amenait, qu'il y a déjà des livrables, mais tu sais, ça a été annoncé en juin de mémoire 2023, le consortium, et puis les gens se sont mis en action, puis il y a déjà des programmes qui ont été ajustés pour être capables de soutenir les entreprises.
Et là, il faut bien voir, avec le ralentissement de l'arrivée des usines et du déploiement de la filière batterie, là, toutes sortes d'enjeux macro qui l'influencent. Cette filière-là, elle s'établit.
Mm-hmm.
Elle a ralenti peut-être. Dans certains cas, de nouveaux joueurs viendront. Et donc, il y a aussi la notion de pouvoir adapter l'arrivée des programmes puis de former les gens au bon moment. Et ça, c'est toujours sur la table. Ça fait partie des discussions pour être en phase complètement avec le développement industriel puis l'arrivée des formations.
Donc, un enjeu de synchronisation là, à travers tout ça. Là.
Oui, parce que, tu sais, le fait, les projets avancent bon train, mais le mettons, la pointe d'étudiants formés est un peu répartie dans le temps. Ce qui est un peu une bonne chose en soi, parce que ça va être plus facile à digérer. Là, le docteur Arruda disait qu'il faut aplatir la courbe. des fois, c'est vrai dans plein d'autres dynamiques. Donc, le fait que les étudiants sont répartis sur une plus longue période, ça amène moins de stress au ouais. système.
Cela dit, quand tout sera bien en place, on a besoin de monter la capacité ouais. de formation qu'on a pour bien soutenir la SPIB, puis la filière batterie, puis la zone d'innovation, parce qu'on a bien mesuré. Que c'est un projet ambitieux. Hein.
Mm-hmm.
La filière batterie à Bécancourt, c'est un projet très ambitieux. On ne pourrait pas le réaliser ailleurs au Canada. Tu as tout à fait raison, Donald. Mais quand tout sera en place, je pense qu'on va devoir monter notre capacité de formation.
Je suis d'accord avec toi. Puis tout ce qu'on fait n'est pas dédié à la filière batterie.
Ah, ben
toutes les entreprises du parc qui œuvrent dans la chimie tirent profit, vont tirer profit de ces nouveaux programmes-là. Tu sais, je le répète, mais la batterie, c'est de la chimie. Et puis, on a déjà plein d'industries chimiques dans le parc. Fait que donc, c'est tout le monde en tire profit de cette initiative-là.
C'est aussi de la physique. Moi, je suis physicien de formation.
Puis moi, je suis en génie civil. Fait qu'il faut commencer par la construction. Fait que
c'est bon. Vous complétez bien, vous deux, là. C'est bon. Donc, formation, on pense de recherche, on pense vraiment tout milieu de vie. Mais aussi, cette collaboration-là entre la SPIB et l'UQTR, ce n'est pas exclusivement la filière batterie. Je pense qu'il y a des beaux exemples, Christian, qu'on pourrait énumérer avec Donald sur en quoi bon la SPIB est impliquée de près ou de loin avec l'UQTR pour différentes initiatives de recherche parfois aussi.
Ben écoutez, il y a des choses qui surprennent.
Oui, effectivement.
tu es encore surpris de ça.
Oui.
Ben, parce qu'on a un centre de recherche... unique au monde, qui se situe dans la SPIB. Mais il ne faut pas le dire.
Il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas le chercher, non plus.
Surtout. On peut en parler, mais il ne faut pas le dire. C'est ça.
En fait, on a... L'UQTR est un des hauts lieux au Canada de la recherche sur les sciences forensiques. Donc, si vous pensez, là, CSI, là, Dexter, ces émissions américaines où on cherche le crime et le criminel, ben, on forme les spécialistes en sciences forensiques à l'UQTR. Et un des axes de recherche, c'est sur la décomposition des corps humains en milieu naturel. Et donc, au sein du parc industriel, il y a un lieu qui est le laboratoire REST, qui nous permet de suivre cette décomposition. Et ça donne des informations absolument fondamentales pour les corps policiers. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux viennent à Bécancourt être formés sur ce qui se passe. On sait maintenant, on est en train de réécrire, par exemple, la séquence d'apparition des insectes. Quand un corps se décompose, c'est vraiment particulier. C'est le seul laboratoire de cette nature-là en zone aux latitudes moyennes. Il y en a en zone très chaude en Australie, mais on est le seul en latitude moyenne.
Donc ça, c'était quand même surprenant quand tu es arrivé en poste.
C'est surprenant. On n'ajoutera pas un stop avec le tourisme industriel. Là. On veut garder le site.
Non, c'est bien. Mais il y a vraiment des recherches essentielles quand même.
Et diversifiées. Mais ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, Donald, c'est que bon, la SPIB, c'est la très grande entreprise en grande partie qui vient. En tout cas, c'est ce qu'on voit.
Oui.
Mais découlant de ça, je pense qu'il y aura tout un mouvement de création de PME, de start-up. Qui fait partie de cet écosystème qui est une zone d'innovation qui est la vallée de la transition énergétique.
Oui, puis je pense que tu vas être d'accord, Christian, que tout ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein. Donc, moi, je me souviens, dans les années 80, quand la luminerie est arrivée de Bécancourt, bon, il y a un réseau de sous-traitants aujourd'hui, il est différent de ce qui était dans les années 80. Fait que donc, ça prendra un certain temps, je pense, pour se développer. Mais comme on en parlait avant l'émission, les futurs diplômés sont probablement des acteurs importants du futur de la région.
Oui, parce que quand on parle, bon, l'idée d'une zone d'innovation, c'est l'idée qu'il y a de la très grande entreprise, qu'il y a des chercheurs universitaires, que les deux collaborent pour des projets de recherche particuliers. Et à partir de ça, découlent de nouvelles entreprises, de nouvelles idées, l'innovation qui finit par être mise en marché. En général, des PME qui naissent et qui grandissent. Bien, le moteur de ça, ce sont nos étudiants au doctorat et à la maîtrise qui viennent participer à ces projets-là. Puis c'est souvent eux qui, à la sortie de leurs études, ont eu une bonne idée et la mettent en place. Et là, c'est tout l'écosystème qui les accompagne, d'incubation, avec les organisations, autant à Bécancour, à Shawinigan qu'à Trois-Rivières, dont le rôle est de faire naître les startups, de les accompagner jusqu'au marché. Bien, c'est nos étudiants, qu'on appelle le personnel hautement qualifié conforme, qui seront ceux qui créeront cette grande poussée économique à Bécancour et ailleurs.
Et Donald aussi, avec l'acquisition du site Laprande, ça sera peut-être un lieu aussi de développement de PME?
Oui, bien, on l'a acquis un peu dans cette idée-là, PME, entreprise plus petite. Je vais citer François-Philippe Champagne qui parle souvent qu'il faut amener des baleines. Et puis autour des baleines se greffent des plus petits poissons. Fait que donc, les PME et les grandes entreprises. Évidemment, je suis assez persuadé que d'avoir des grandes entreprises chez nous, c'est aussi positif. Donc, que les PME soient connectées à des grandes entreprises de la région au lieu d'avoir des entreprises très loin de chez nous. Fait que donc, c'est un équilibre entre les deux, mais assurément, la Prade va être un terreau fertile pour accueillir d'autres PME.
On est déjà rendu à la fin de notre émission, imaginez-vous donc. Et on aurait pu parler, entre autres, de l'Institut de recherche sur les PME qui est fort réputé à l'UQTR. Mais tout ça pour dire qu'on a fait le tour vraiment rapidement, mais efficacement de ce qui se passe entre la SPIB et l'UQTR. Ben puis oui. D'ailleurs, je vais te laisser le mot de la fin pour nous faire des salutations à notre invité du jour.
Ben oui, merci Christian d'être là. On a autre chose en commun. Hein. Construction, on a les mêmes années. Fait qu'on a le même architecte, les bureaux de la SPIB et les édifices de l'UQTR. Ça a été le même architecte, oui. Effectivement. Donc, merci encore d'être venu, Christian.
Grand plaisir.
Merci beaucoup, Christian Blanchette, recteur de l'UQTR. Et on avait évidemment Donald Olivier, comme à chaque lundi, pour la Société du Parc industriel. La semaine prochaine, Julie Paquette, Nouveau Monde Graphite, un joueur de la filière batterie qui sera avec nous pour le Parc en 30 minutes. Alors, soyez des nôtres lundi prochain. Ne manquez pas.